En prime, toute cette semaine, nous vous offrons aussi la transcription écrite de l'interview qui constituait la deuxième partie de ce documentaire, interview de Nourrit Aviv par Joseph Confavreux. Il est 17h. Les nouveaux chemins de la connaissance avec Raphaël Antoven. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Jean Lebrun et bonsoir à tous. Suite et mi-chemin d'une semaine sur l'absurde dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Camus et Beckett, avant Ionesco et Kafka, c'est de Boris Vian que nous parlerons ce soir, des remous écumeux où dansent les épaves, des fleurs d'acier qui poussent au canon des fusils, des poumons empesés par la plante marine, de désir et de sang, de jazz et de cuisine, bref, de l'écume des jours. Et c'est en principe le docteur, entendez l'universitaire et non pas l'apothicaire, Marc Lapran, à qui l'on doit un formidable V comme Vian, paru aux presses de l'université de Laval, qui enseigne à l'université de Victoria près de Vancouver, d'où il devrait être en duplex avec nous. C'est ce que nous saurons dans quelques instants. Le souterrain était bordé des deux côtés par une rangée de volières de grande dimension où les arrangeurs urbains entreposaient les pigeons de rechange pour les squares et les monuments. Il y avait aussi des pépinières de moineaux et des pépiments de petits moineaux. Les gens ne descendaient pas souvent dedans parce que les ailes de tous ces oiseaux faisaient un courant d'air terrible où volaient de minuscules plumes blanches et bleues. « Il ne s'arrête jamais de remuer, » dit Chloé, en assujettissant sa toque pour éviter qu'elle ne s'envolât. « Ce ne sont pas les mêmes tout le temps, » dit Colin. Il luttait avec les pans de son par-dessus. « Dépêchons-nous de dépasser les pigeons. Les moineaux font moins de vent, » dit Chloé, en se serrant contre Colin. Marc Lapran, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Mais c'est un miracle, puisque nous avons démarré cette émission dans l'incertitude. On essayait de vous parler, on vous entendait d'ailleurs, commenter nos échecs, et puis on a commencé l'émission dans le vide. C'est des choses qui arrivent. On est d'autant plus ravis de vous accueillir au nouveau chemin depuis Victoria. Hein, vous êtes à Victoria, près de Vancouver.
Ça, oui. Il se peut d'ailleurs que les problèmes techniques soient plutôt de notre côté, mais enfin, on arrive quand même à se connecter grâce à quelques satellites bienveillants.
Oui, c'est une merveille. Vive le téléphone satellitaire. Marc Lapran, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, l'auteur d'un V comme Vian. C'est le titre de votre livre, paru aux presses de l'Université de Laval, et qui, je dois dire, est tout à fait formidable et très utile comprendre, ou plus exactement imaginer et rêver à partir de l'écume des jours. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine sur l'absurde, dans les nouveaux chemins de la connaissance. Vian commence dans son avant-propos, il dit cette phrase étonnante, et je voudrais qu'on parte de là, puisqu'après tout c'est peut-être le cœur de l'affaire. Il dit « Cette histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Eh bien, je répondrai de deux manières. Ma première manière de répondre, c'est de dire que Vian fait partie sans doute de cette génération d'écrivains qui, au sortir de la guerre, ont soif d'autre chose, et donc se veulent chercher tous les possibles de l'imaginaire. Et l'autre côté, c'est par rapport à l'absurde, puisqu'on est dans le thème de l'absurde. Et je ferai remarquer d'abord que parmi les cinq écrivains que vous avez choisis, Vian est sans doute le moins absurde. Néanmoins, il y a quand même de l'absurde chez Vian, et j'aimerais plus tard dans l'émission essayer de le définir.
Oui, alors c'est le moins absurde, mais disons qu'il y a un absurde ludique, poétique, plus joyeux peut-être.
L'absurde, mais il y a une évolution entre L'écume des jours et L'automne à Pékin, qui sont les deux romans que nous avons retenus, dans le sens que jusqu'à L'écume des jours, il y a une espèce d'euphorie du langage, et l'absurde est né de toutes les failles du langage. Tandis qu'à partir de L'automne à Pékin, et d'une manière plus prononcée dans les romans suivants, en particulier L'herbe rouge et L'arrache-cœur, il y a réellement une forme d'angoisse et de désespoir, mais qui est toujours combattu par un désir de vie, un désir de création, un désir de faire quelque chose face à cet absurde de l'existence. Alors dans ce n'est pas un absurde existentiel plan philosophique, je dirais.
Mais en même temps, les situations que décrit Vian parfois relèvent de l'absurde, ou alors effectivement, et peut-être ça n'est pas le même registre après tout, du fantastique, en particulier dans L'écume des jours, Marc Lapran.
Oui, alors, fantastique, vous avez raison.
Avec aussi, je pense, un certain héritage surréaliste. Par exemple, dans L'écume des jours, dont vous avez parlé tout à l'heure, l'image à la piscine de cet homme à la tête de pigeon, et dont les personnages se demandent pourquoi il n'a pas été affecté à la patinoire. Alors, voilà une image qui, pour moi, est proprement surréaliste, parce qu'elle n'est jamais expliquée, donc elle est tout à fait gratuite. Et elle est c'est vraiment une image, en fait. Le pianoctel est aussi une création surréaliste.
On va y venir, au pianoctel. C'est une création surréaliste, ça c'est sûr. On va y venir. Restons un instant sur l'homme à tête de pigeon. Dans l'écume des jours, il y a ce que Adèle Van Rett qualifie de vitalisme, je crois, à la suite de votre ouvrage. On y trouve une pierre vivante, un fusil plante, un lapin machine, une souris âme, un chat guillotine, puisqu'à la fin le chat décapite la souris, oui. À la demande d'ailleurs de la souris.
Enfin, il la décapite pas, on pense qu'il va la décapiter.
Voilà,
mais
c'est
il y a
ça. Il lui propose galamment et courtoisement d'entrer dans sa gueule, de manière à ce que si on lui marche sur la gueule se ferme et qu'il lui coupe la tête. On a le sentiment, indépendamment du rapport à la mort dont on va parler, qu'il n'y a aucune cloison entre les règnes des règnes végétales, matériels, animaux.
Absolument. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est encore un jeu qui naît du langage, je crois, chez Vian.
C'est-à-dire ?
Eh bien, à chaque fois qu'il y a des expressions, je ne sais pas, par exemple, dans L'herbe rouge, il est question de quelqu'un qui est, on dit d'une femme qu'elle est belle comme une lanterne japonaise allumée, plutôt que belle comme le jour. Donc, Vian attaque toujours les expressions figées du langage pour essayer d'exploiter une potentialité et en même temps faire naître ces croisements entre les règnes, comme vous l'avez dit, animal, végétal ou même des choses. Par exemple, un autre exemple, si vous me permettez, dans L'écume des jours, c'est lorsque Colin, dans un geste de colère, brise une vitre. La vitre
se recompose immédiatement, elle cicatrise d'elle-même. Oui, mais alors c'est le gel, c'est le givre qui remplace la glace, mais on voit la vitre se reconstituer d'elle-même à l'instant où il l'a brisée, effectivement.
Exactement. Alors, et bien sûr, ça donne l'impression qu'on est un peu dans un monde fantastique, mais c'est tout de même très proche d'une potentialité du langage qui permet ce monde fantastique.
Est-ce que c'est une potentialité du langage ou est-ce que c'est tout simplement parce que cet homme écrivait en musique et qu'après tout la musique fonctionne pour lui comme un exhausteur de réalité et qu'il tire finalement chaque objet qu'il a sous les yeux du côté de la poésie, c'est-à-dire du côté de son expression à la fois la plus réelle et en même temps si réelle qu'elle en devient surréaliste?
Oui, je pense que vous avez raison, mais jusqu'à L'écume des jours, où la musique est très présente. D'ailleurs, le critique Gilbert Pestureau a fort justement qualifié ce roman de roman ellingtonien, puisque on y remarque quand même la présence du jazz et du swing d'une manière très marquée. Mais la musique s'estompe peu à peu à partir de L'automne à Pékin pour tomber dans des considérations plus métaphysiques, plus existentielles et plus vers l'angoisse, disons.
plus vers l'angoisse, effectivement. Or, ici, alors, dans l'écume des jours, déjà, l'angoisse est d'une certaine façon présente, puisqu'après tout, hein, il faut resituer un tout petit peu les choses pour ceux qui n'ont pas en tête forcément toute la trame du livre. Colin, qui commence par être riche, qui a plein de doublezons, puisque c'est l'autre nom de l'argent, finit sans argent, et contraint pour son malheur à travailler, et en particulier pour assurer le confort minimal à la femme qu'il aime, Chloé, laquelle subit la croissance d'un nénuphar, puis d'un autre, dans les poumons qui la ronge. Néanmoins, on peut parler d'un livre ellingtonien, puisque c'est un livre où il y a des notes en bas de page, d'ailleurs qui sont de Vian lui-même, où il ne cesse de préciser quelle est la nature des morceaux qu'il parle. D'ailleurs, Vian décrit très précisément deux choses dans ce livre, les recettes de cuisine du cuisinier Nicolas et les morceaux de musique.
Et les recettes de cuisine d'ailleurs qui sont extraites d'un manuel de cuisine de Jules Gouffet, qui sont pour la plupart authentiques, y compris l'andouillon au porto. Par contre, je ne sais plus quel animal sort du... C'est une anguille qui sort du robinet, ça c'est peut-être pas dans le Jules Gouffet. Mais il y a beaucoup de réel finalement dans cet imaginaire qui arrive. Et il y a chez Vian bien entendu une connaissance très poussée du jazz à cette époque-là, puisqu'il côtoie les grands jazzmen américains. Et pour lui, c'est la forme ultime de la libération en musique.
Et alors, non seulement la forme ultime de la libération en musique, mais c'est surtout la forme ultime de la libération en amour, puisqu'après tout, avant même l'apparition de Chloé, du personnage de Chloé, ou quasiment, enfin une apparition presque contemporaine de ce personnage, c'est le morceau de Duke Ellington, Chloé, la chanson du Marais, le Marais qui est également le lieu où prospèrent les nénuphars, qu'on entend dans le livre de Boris Vian, L'écume des jours. Rue menait à Chloé. Chloé, vos lèvres sont douces, vous avez un teint de fruit, vos yeux voient comme il faut voir et votre corps me fait chaud. Il me faudra des mois pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Il faudra des ans de mois pour épuiser les baisers que je veux poser sur vous, sur vos mains, sur vos cheveux, sur vos yeux, sur votre cou. Chloé, je voudrais sentir vos seins nus sur ma poitrine, mes deux mains croisées sur vous, vos bras autour de mon cou, votre tête parfumée dans le creux de mon épaule et votre peau palpitante et l'odeur qui vient de vous. Marc Lapran est notre invité aujourd'hui, à mi-chemin d'une semaine sur l'absurde dans les nouveaux chemins de la connaissance, c'est de Boris Vian, et plus particulièrement de l'écume des jours, et peut-être un peu plus tard de l'automne à Pékin, où il n'est question d'ailleurs ni d'automne ni de Pékin, que nous allons parler ce soir. Marc Lapran, pourquoi ce personnage de Chloé, dont Colin ici est perdument amoureux, se trouve tout d'un coup comme envahi par une sorte de cancer végétal, ce nénuphar qui la ronge?
Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Tout d'abord, je ferai remarquer que Chloé, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, est née littéralement d'un morceau de musique de Duke Ellington qui porte le même titre. D'ailleurs, Colin, dans sa maladresse au départ, lorsqu'il rencontre Chloé pour la première fois, lui dit, en bredouillant, « Êtes-vous arrangé par Duke Ellington ?»
Donc, elle oui, avant de partir de honte d'ailleurs, d'avoir pu prononcer une phrase, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, c'est plutôt un compliment flatteur, mais bon, allez-y.
Mais il y a une théorie que les psychanalystes vianiens ont avancée, qui est très intéressante, selon laquelle, en fait, Colin est tombé amoureux d'Alice avant Chloé, mais que Alice était prise, entre guillemets, par son meilleur ami Chic, et donc il est obligé de se rabattre sur une autre femme. Mais il n'aime pas vraiment cette femme, il a simplement envie d'être amoureux. Et donc, dès la cérémonie du mariage, enfin juste après la cérémonie du mariage, elle commence à tousser, elle commence à manifester les premiers signes de sa maladie. Et donc, dans cette théorie psychanalytique, c'est comme si, d'une manière symbolique, c'est Colin lui-même qui avait enfanté chez Chloé ce nénuphar délétère qui va petit à petit la ronger et la faire mourir à la fin de l'histoire.
Alors, Chic, vous avez mentionné ce personnage, hein, l'autre couple, Alice et Chic. Alice, d'ailleurs, que Colin retrouvera d'une certaine manière avant qu'il ne constate l'un et l'autre, hein, que elle préfère Chic et que lui préfère Chloé. Alice et Chic ont ceci de terrible entre eux, que Chic est tout entier prisonnier d'une passion éperdue, non pas pour elle,
oui,
mais monomaniaque pour Jean-Sol Partre. Pour ce philosophe germano-pratin, Jean-Sol Partre, qui est l'auteur impérissable des paradoxes sur le dégueulis, du choix préalable avant Holker, de vomi, ou bien qui prépare une encyclopédie de la nausée. D'ailleurs, tout ça exaspère tellement Alice qu'elle finit par tuer Jean-Sol Partre. Hein, L'écume des jours raconte la mort de Jean-Sol Partre. Alors, on s'est amusé au Nouveau Chemin avec Christine Diger pour résumer peut-être en peu de mots la nature du rapport de Chic à Jean-Sol Partre. Eh bien, tout simplement mixer Jean-Sol Partre, le vrai, avec du Duke Ellington. Écoutez.
On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, s'il est vraiment un écrivain, responsable de la liberté humaine. Mais alors, ici, nous abordons des problèmes beaucoup plus complexes que beaucoup plus difficiles. Est-ce qu'il ne va pas compter, dans ce cas, qu'il soit un clerc, comme veut M. Baena, et qu'il réflexe sans entrer dans la mêlée
Il se fit un abondant silence alentour et la majeure partie du monde, du reste du monde, se mit à compter pour du beurre. Mais comme il fallait s'y attendre, le disque s'arrêta. Alors seulement, Colin revint à la vraie réalité et s'aperçut que le plafond était à claire-voie, au travers de laquelle regardaient les locataires d'en dessus, qu'une épaisse frange d'iris d'eau cachait le bas des murs, que des gaz diversement colorés s'échappaient d'ouvertures pratiquées ça et là, et que son ami Isis se tenait devant lui et lui offrait des petits fours sur un plateau hercynien. Marc Lapran, est-ce qu'on peut parler d'un livre fou?
De la manière dont vous en parlez, oui, on a envie d'en parler comme d'un livre fou. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour cet excellent enregistrement de Jean-Sol Partre.
On en a d'autres.
On n'a jamais entendu aussi clairement.
Mais oui, c'est limpide. Allez-y.
Alors, il y a, c'est sûr que l'écume des jours est un sommet dans la démesure, dans l'euphorie, dans l'exubérance, et on peut parler d'une folie du langage. Alors, à chaque détour d'une expression, il va se greffer quelque chose, comme l'épithète hercynien, le plateau devient hercynien, et c'est dans l'écume des jours que fleurissent les deux figures de prédilection chez Vian, qui sont la comparaison et le pied de la lettre d'une expression imagée.
C'est-à-dire, allez-y.
Alors, si vous me permettez un exemple, dans l'écume des jours, au moment où l'infortuné Chic va subir un passage à tabac de contrebande par l'escadrille assez redoutable des Douglas, c'est-à-dire la police, on les décrit d'une manière assez terrifiante, et on dit à la fin d'un petit paragraphe que les 12 pieds s'en vont en imitant le vol du coucou à gaufre. Donc il y a une espèce de décrochage vers un humour noir qui fait qu'on ne sait pas si on est dans le sérieux ou dans le terrible, si vous voulez, dans le terrifiant, ou dans le désopilant, dans le gag cinématographique qu'on verrait bien dans un film des Marx Brothers, par exemple. Alors, si vous me permettez de continuer,
je vous en prie.
Le même roman, L'écume des jours, abonde les prises au pied de la lettre des expressions imagées. On n'en finirait pas de citer des exemples. Je vous citerai comme ça de mémoire rapidement. Tout au début, lorsque Nicolas décrit à Colin une recette de cuisine, il lui dit « pousser le feu sur l'espace ainsi gagné, Bon. Ensuite, il est question d'une pointe d'ail qui n'a pas pu aiguiser parce que la meule était trop usée. Et puis, il y a cette fameuse scène où le pharmacien va exécuter une ordonnance avec une petite guillotine de bureau. Donc, vous voyez, là, on a des exemples magnifiques, à mon sens, de cette propension chez Vian de subvertir les expressions figées par le langage pour faire naître ce monde merveilleux et fou.
Le cœur vivant de ce monde merveilleux, Marc l'apprend, est-ce que c'est cet appareil fabuleux, composé par Colin, je dis composé à dessein d'ailleurs, le pianoctel, cette création qui unit les deux joies que sont le goût et l'audition, hein, l'ivresse et la musique, c'est-à-dire cette espèce de cette métaphore vivante de la des synesthésies baudelairiennes où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Vian, dans le pianoctel, pour décrire le pianoctel, dit ceci: à chaque note, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de sel, s'il faut un tri dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée. À la quadruple croche équivaut la 16e d'unité, à la noire l'unité, à la ronde la quadruple unité. Lorsqu'on joue un air lent, un système de registre est mis en action, de façon que la dose ne soit pas augmentée, ce qui donnerait un cocktail trop abondant, mais la teneur en alcool. Et suivant la durée de l'air, on peut, si l'on veut, faire varier la valeur de l'unité, la réduisant par exemple au centième, pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les harmonies au moyen d'un réglage latéral.
The balcony is on the make, and a piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye.
Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelles chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats, levez la patte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile ou le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas, soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas.
Marc Lapran est notre invité aujourd'hui, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, et c'est de Boris Vian que nous parlons, et de L'Écume des Jours, et c'est Tom Waits, en l'occurrence, qui nous accompagne, hein, The Piano Has Been Drinking, meilleure façon peut-être d'illustrer le pianoctel. Qu'en pensez-vous, Marc Lapran?
Ah oui, tout à fait. Et vous aviez absolument raison tout à l'heure de faire allusion aux synesthésies baudelairiennes, puisqu'on est exactement dans les croisements des sens, le plaisir des sensations, ce mariage idéal ou idéalisé par Colin de la musique de jazz, évidemment on parle de jazz ici, et de cocktails, donc de boissons euphorisantes, trouve toute son apogée avec cette création. Qui d'ailleurs est à rapprocher incontestablement de l'orgue à bouche de Des Esseintes, de Huysmans.
De Huysmans,
donc
oui.
Il y a déjà un antécédent, mais peut-être pas poussé aussi loin que chez Vian.
Il faut bien comprendre que le pianoctel, quand on joue un morceau, produit un cocktail qui lui correspond.
Exactement. Et Vian ne manque pas de traiter aussi la chose avec humour, à savoir, si vous vous souvenez, la première fois que Colin, tout fier de sa nouvelle invention, l'inaugure devant son ami Chic, il lui propose de jouer un piano, mais le tempo est un peu trop hot, et donc au lieu de battus, ce sont des morceaux d'omelette qui vont tomber dans le verre.
Oui, c'est vrai, absolument. Ce qui renvoie d'ailleurs aux échantillons de vomi que Jean-Sol Partre exhibe lors d'une conférence. Le rapport au goût est essentiel, puisqu'on va du plus infect, ou plus, du plus délicieux, au plus infect. Il y a cet étrange personnage, le personnage de Nicolas, qui, quand il est habillé en tenue de cuisinier, vous voit son maître, oui. Et lui parle avec toute la déférence qui convient aux domestiques et au rapport des maîtres et de leurs domestiques. Et puis, quand il s'habille en civil, redevient, si j'ose dire, normal, et se met à le tutoyer, et qui, par ailleurs, est un cordon bleu invraisemblable. et qui enfin est affecté d'une espèce de progéria, de vieillissement accéléré, sous l'effet d'un grand chagrin. Quel est le sens de ce personnage, la fonction de ce personnage, Marc Lapprend, dans L'écume des jours?
Eh bien, ce personnage, il joue à la fois pour Colin et Chic, qui ont 21-22 ans, le rôle de grand frère, de mentor, de protecteur. Il est probablement issu de la littérature anglaise de Woodhouse, c'est-à-dire le majordome qui s'appelait Jeeves, qui est cet homme excellemment distingué, presque affecté, qui porte continuellement son chapeau melon, mais dont la présence discrète assure un certain confort matériel et une sécurité que rien ne saurait entamer.
Je renvoie ici l'auditeur à toutes les œuvres de P.J. Woodhouse, qui sont toutes désopilantes et d'un humour parfait.
Et dont le couple Vian était d'assidu lecteur, il faut le rappeler.
Ben, ça s'entend.
Et donc ce personnage, il est toujours là. Et tant que sa présence est manifeste, on se sent en sécurité. Oui, pardon.
Mais je vous en prie, allez-y, on se sent en sécurité. Il est le garant de la sécurité, le Nicolas.
Oui, puisque à chaque fois qu'il y a des coups durs, même s'il est habillé en civil et puis qu'il parle d'une manière presque vulgaire, sa présence est quand même protectrice. N'oublions pas qu'à la fin du roman, c'est le seul avec son ami Isis qui survive. Oui. À toutes les catastrophes.
Oui, puisque la fin du roman est une hécatombe. Hein.
Exact.
Tout le monde meurt, Chloé, Chic, Alice et Colin. D'ailleurs,
c'est pas certain que Colin meure. On pense qu'il va mourir, mais il y a un suspense.
Oui, vous avez raison, effectivement. Enfin, on donne pas cher de sa peau depuis qu'il fertilise la terre pour produire des fusils, ce qui est quand même l'un des métiers qu'il trouve.
On peut parler d'absurde là, par exemple.
Est-ce qu'on peut parler d'absurde ou est-ce qu'au contraire on peut parler à l'instant où Colin, contraint de travailler, en vient à vendre la chaleur de son corps pour produire des armes à feu. Est-ce que à cet instant-là, Vian ne devient pas un peu, pour le coup, un peu didactique? Est-ce que c'est pas tout simplement le Vian du déserteur qui tout simplement n'aime ni la guerre ni les armes à feu?
Oui, absolument. Là où Vian utilise le mot d'absurde, c'est souvent pour parler de la guerre. Il y a une nouvelle qui est très emblématique à cet égard, c'est Les fourmis, qui avait d'ailleurs à ce point plu à Sartre qu'il l'avait publié en 1946 dans Les temps modernes. C'est le seul texte où Vian parle de la guerre, mais il la traite d'une manière totalement absurde.
Effectivement, il la traite de façon totalement absurde. On va revenir sur les rapports de Vian et de Sartre, et en particulier sur le statut de Jean-Saul Partre dans L'écume des jours, en votre compagnie, Marc Lapprend. D'abord, tout simplement, c'est Boris Vian lui-même qu'on va entendre. Écoutez.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient qu'à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hal puissent s'en fourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, trempe ici c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joues à la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Marc l'apprend, à quoi tient quel est le rapport de Boris Vian et Jean-Sol Partre ou Jean-Paul Sartre? Quel rapport entretient-il? Puisque honnêtement, il ne l'épargne pas. Non seulement il l'assassine dans l'écume des jours, mais surtout il le décrit en conférencier totalitaire avant de raconter, on y reviendra, le moment où Chic décide de l'écouter en stéréo pour que les idées viennent plus nombreuses. En somme, ce personnage qui suscite de l'idolâtrie, à rebours d'ailleurs de ce que Sartre lui-même enseigne.
Eh bien, écoutez, vous posez une excellente question et il est opportun de remettre les pendules à l'heure pour dire que...
Remettre les pendules à leur place, dirait Vian. Allez-y.
Voilà. Les rapports de Vian à Sartre sont excellents. Il l'a rencontré avec Simone de Beauvoir et Merleau-Ponty probablement au début de l'année 46. Ils ont sympathisé, ils ont commencé à sortir ensemble, à faire des fêtes ensemble... Et ils s'entendaient très bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sartre, qui avait quand même beaucoup d'humour, avait fort goûté cette fameuse scène de la conférence qui était l'existentialisme est un humanisme, pardon, ouais. que Sartre avait effectivement donné au club maintenant, je crois que c'était vers la fin 45, mm-hmm. et qui avait suscité une espèce de folie dans la foule, enfin un mouvement de foule qui est complètement caricaturé dans l'écume des jours, et ça plaisait beaucoup à Sartre en fait. Mais ce que Vian satirise, ce n'est pas le philosophe, c'est tout cet engouement médiatique qui entourait en fait son discours, sa personnalité, sa gloire montante, etc.
Alors Jean-Louis, allez-y Marc, la prend, pardon, allez-y.
Non, excusez-moi.
Non, Jean-Louis Jacopin, qui est à mes côtés dans le studio, donc à Paris, le studio 167 de la Maison de Radio France, a sous les yeux le passage de l'arrivée de Jean-Sol Partre, donc prêt à faire sa conférence. Je vous propose qu'on l'entende pour le simple plaisir de l'entendre, et puis aussi pour que nos auditeurs aient en tête à la fois ce que Vian en dit dans l'écume des jours, mais également peut-être ce qui s'est, entre guillemets, réellement passé, puisque, comme le dit Vian, il l'a imaginé d'un bout à l'autre. Écoutons.
Mais Jean-Sol approchait. Des sons de trompe d'éléphant se firent entendre dans la rue et Chic se pencha par la fenêtre de sa loge. Au loin, la silhouette de Jean-Sol émergeait d'un houda blindé sous lequel le dos de l'éléphant, rugueux et ridé, prenait un aspect insolite à la lueur d'un phare rouge. À chaque angle du houda, un tireur d'élite armé d'une hache se tenait prêt. À grandes enjambées, l'éléphant se frayait un chemin dans la foule et le piétinement sourd des quatre piliers s'agitant dans les corps écrasés se rapprochait inexorablement. Devant la porte, l'éléphant s'agenouilla et les tireurs d'élite descendirent. D'un bond gracieux, Partre sauta au milieu d'eux et, ouvrant la route à coups de hache, ils progressèrent vers l'estrade. Les agents refermèrent les portes et Chic se précipita dans un couloir dérobé qui aboutissait derrière l'estrade, poussant devant lui Isis et Alice.
On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut,
on n'écrit pas,
nous
on
dirons,
ne parle pas
l'écrivain dans le désert.
Et une fois ainsi, pour toutes,
s'il est vraiment
puisque c'est là ce que veut,
responsable.
Chic souleva le couvercle de son pick-up à deux plateaux et mit deux disques différents de Jean-Sol Partre. Il voulait les écouter tous les deux en même temps pour faire jaillir des idées nouvelles du choc de deux idées anciennes. Il se plaça à égale distance des deux haut-parleurs afin que sa tête fût juste à l'endroit où ce choc aurait lieu et conservât automatiquement les résultats de l'impact.
Qu'il soit un clair, comme veut M. Baeda, et qu'il reflète sans entrer dans la mêlée, parce que la mêlée est toujours injuste. Est-ce qu'il traite?
Marc Lapran est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, et c'est de Boris Vian que nous parlons ce soir. On est au bord extrême de la pataphysique, ou en son extrême centre, c'est selon, en votre compagnie, Marc Lapran. Et c'est de Boris Vian et de Jean-Paul Sartre que nous parlons ici. Alors, ce qui est étonnant dans l'écume des jours, Marc Lapran, c'est que bien souvent, on sent chez Vian une présence conscience, cette fois-ci implicite, de Jean-Paul Sartre ou de Jean-Sol Partre. En particulier, le corps d'Alise, par exemple, qui entre les mains de Colin, devient comme une chose, ce qui rappelle l'épisode sartrien de la femme de mauvaise foi, par exemple.
Ah oui, il ne faut pas oublier que Vian avait quand même, il avait lu Sartre, évidemment. Et il s'amuse aussi à pasticher la notion de l'engagement dans l'écume des jours, entre autres choses. Vian n'est pas philosophe. Je crois qu'il se méfie de la philosophie, parce que Vian est un technicien avant tout. Mais quand il parle de la philosophie, c'est par petites touches, souvent critiques, et dérisoire, comme par exemple quand il déclare Sartre prétend que l'existence précède l'essence, pour moi il n'y a pas d'essence. Donc vous voyez, c'est une espèce de formule à l'emporte-pièce qui montre un peu son désintérêt de la philosophie, mais non pas de la philosophie comme technique, de la philosophie comme discipline qui pourrait finalement rendre l'homme heureux. Je crois que ça, Vian n'y croit pas.
Et d'ailleurs, on pourrait dire aussi qu'il y a chez Vian un langage technique, presque scientifique, bien souvent, constamment subverti. D'ailleurs, je vous propose d'entendre, pour continuer cette conversation avec vous, sur son rapport peut-être à la philosophie ou à une démarche gnoséologique ou une entreprise de connaissance, Boris Vian lui-même parlait de son rapport à la logique, de sa logique, comme il dit.
Je ne sais pas si je bouscule exactement la logique. Je crois que cet effet vient de ce que la logique, pour moi, n'est pas la logique aristotélicienne, si vous voulez. Enfin, jamais je n'ai pu me contenter de la logique du blanc ou du noir, ou de la logique à deux valeurs. C'est absolument insuffisant. Si une chose n'est pas blanche, elle peut être noire, évidemment, mais elle peut être également d'un tas de couleurs très différentes. Enfin, c'est pas oui, non ou peut-être. Je trouve que même ces trois valeurs-là sont bien insuffisantes.
Même oui, non, peut-être, ça ne suffit pas, hein, Marc Lapran, pour qualifier le travail de Vian.
Alors, le passage que vous venez de citer, de la voix donc de Boris Vian lui-même, fait allusion à sa fascination pour la sémantique générale d'Alfred Skorzybski, qui était un sociologue des années 40-50 et qui avait écrit un monumental ouvrage sur la logique non-aristotélicienne qui avait fasciné Vian et qui avait aussi fasciné l'écrivain de science-fiction Van Vogt, dont Vian a publié les deux premiers romans, Le Monde des Nonas et Les Aventures des Nonas. Et pour Vian, il y a peut-être une possibilité de réponse à des questions que la philosophie ne sait pas résoudre.
Par le biais de quoi ? Par le biais de la sociologie ? Par le biais de la
sociologie, la technique. Un exemple. Vian ne croit pas du tout aux politiques. Ouais. Pour lui, la politique, c'est du bavardage, de l'atermoiement, de l'indécision. Il faut dire aussi que dans la quinzaine d'années où il a produit son œuvre, c'est-à-dire en gros la 4e République, il y avait de quoi se poser des questions sur l'efficacité politique. Donc il essaye de se tourner vers quelque chose qui pourrait marcher, qui pourrait fonctionner. C'est pour ça que dans les années 50, il songe à écrire un traité de civisme dont on dit qu'il voulait répondre au traité de morale que Sartre avait songé à écrire, mais auquel il n'avait pas donné suite.
Les carnets de la drôle de guerre.
Oui, c'est
mais,
ça.
Mais alors, en même temps, comment cet homme qui a voulu écrire un traité de civisme peut-il, dans l'écume des jours, c'est le cas, et d'ailleurs on le retrouve bien souvent chez Vian d'ailleurs, faire de l'assassinat une toute petite chose tout à fait anecdotique. Par exemple, il y a un moment où Colin, apprenant que Chloé est malade, se précipite à son chevet, doit se faire ouvrir la porte de son vestiaire par un garçon qui traîne des pieds, de rage, il lui coupe la tête, tout simplement, et puis après il part et laissant derrière lui une flaque de sang.
Oui, c'est assez curieux, cette violence omniprésente, mais en même temps qui ne dérange pas les personnages. Dans le même ordre d'idées que ce que vous venez de citer, par exemple, lorsque Colin et Chloé marchent dans les rues de Paris, il regarde les vitrines, il badaude, et à un moment, il voit un employé de l'assistance publique en train d'égorger des petits-enfants, et ça ne les surprend pas du tout. C'est une scène comme une autre. Donc c'est assez déroutant en fait, cet étalage de violence gratuite.
Étalage de violence gratuite qui se double d'un étalage de tendresse totale chez Vian. On va retrouver, tiens d'ailleurs, Colin et Chloé qui au terme de leur balade décident de s'asseoir sur un banc. Écoutez.
L'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir, et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté, et, tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leur ventre blanc et leur dos argenté. Chloé se redressa un peu. « Viens t'asseoir près de moi. » Colin se rapprocha d'elle, il s'installa en travers du lit et la tête de Chloé reposait au creux de son bras gauche. La dentelle de sa chemise légère dessinait sur la peau dorée de Chloé un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance de ses seins. La main de Chloé s'accrochait à l'épaule de Colin. « Tu n'es pas fâché ?»« Pourquoi fâché ? » ?»« D'avoir une femme si bête ?» Il embrassa le creux de l'épaule confiante. « Tire un peu ton bras, ma Chloé. Tu vas prendre froid. »« Je n'ai pas froid, dit Chloé. Écoute le disque. »
Ce qui est fascinant, Marc l'apprend dans l'écume des jours, c'est la diversité des registres. Hein. Écoute le disque en question, c'est The Mood to be Wood, qu'on est en train d'entendre là. Hein. Ce qui est étonnant quand même chez Vian, c'est la diversité des registres. On est là dans une tendresse totale. Ils n'étaient pas sur un banc, hein, contrairement à ce que j'ai dit, mais dans la chambre, dans l'alcôve. Et on peut passer de là à une scène d'une violence inouïe, puis ensuite un peu de musique. De façon générale, j'en reviens quand même à la question que je vous posais au début. Est-ce que la musique n'est pas le fin mot de ce livre ?
C'est possible, c'est possible. C'est une interprétation tout à fait valable. Mais je ne voudrais pas qu'elle occulte les autres. C'est-à-dire au niveau de la poésie du langage, par exemple, qui est un peu à l'écart de ce registre musical. Le passage que vous venez de citer est très emblématique puisque c'est le seul endroit dans le roman où apparaît le mot écume, et encore sous la forme adjectivale écumeux, et qui est un peu une mise en abîme dans tout le roman, et qui donne son sens au titre, puisque le titre lui-même est tout de même un peu énigmatique. Comme bien d'autres chez Vian.
Alors justement, oui, c'est le propre. Il y a certains titres qui sont quand même là pour brouiller les pistes. On en avait parlé, et non, on va en parler, puisque ce sera diffusé demain à propos de la cantatrice chauve, dont le titre oui. est dû à un lapsus d'un acteur. Le titre « L'écume des jours » ne se retrouve pas dans le livre du même nom. L'automne à Pékin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ne parle ni d'automne ni de Pékin. Comment Vian trouve-t-il ces titres, hein, Marc l'apprend?
J'ai presque envie de revenir à notre ami Jean-Saul Partre qui dit que l'homme ne parle pas dans le désert. Eh bien oui, l'homme parle dans le désert d'Exopotamie de l'automne à Pékin, roman que Vian a écrit à l'automne. Et alors le Pékin, il y a plusieurs interprétations possibles, mais la chinoise est probablement la plus lointaine. Ici, il est plutôt question du Pékin, c'est-à-dire un tissu rayé, puisque le roman abonde en rayures, en alternance.
Et en univers possible également, hein, puisque c'est quand même le rêve d'un homme qui se promène dans des univers parallèles, l'automne à Pékin.
Oui, et si vous me permettez d'en parler un tout petit peu de l'automne à Pékin, je dirais que, et je fais un peu allusion à l'émission d'hier, c'est peut-être le plus beckettien des romans de Vian, dans le sens qu'il est cyclique. C'est un roman qui, pour moi, correspond le plus à l'absurde dans l'œuvre de Vian. Et il avait dit, 2 ans après avoir écrit ce roman, il avait dit ceci. « Le désert est la seule chose qui ne puisse être détruite que par construction. » Donc là, il me semble qu'il y a une manifestation tangible de l'absurde.
Une manifestation tangible de l'absurde également dans le fait que tout n'y est pas expliqué. Oui. Contrairement d'ailleurs, dites-vous, c'est vous qui le notez hein, dans votre livre, contrairement à Ionesco, et vous avez raison, Marc Lapran.
Alors, quand Vian a réédité, grâce à Rob Grillet, l'automne à Pékin en 1956, il a dit quelque chose de très intéressant à la radio de la RTF à l'époque. Si vous me permettez de le citer, ça va prendre une trentaine de secondes.
Allez-y.
Et il dit ceci quand on lui demande d'éventuelles influences à ce roman. Voilà ce que Vian dit. Écoutez, je ne crois pas avoir répondu à des influences littéraires. En tout cas, j'ai peut-être répondu à l'influence du fait que c'était la fin de la guerre et qu'on ne peut guère trouver chose plus absurde qu'une guerre, quelle qu'elle soit. Et je crois tout de même que, d'un autre côté, l'histoire d'une entreprise comme celle qui consiste à construire une ligne de chemin de fer au milieu du désert peut très bien être prise d'un autre sens, si vous voulez. C'est également un éloge de la persévérance, puisque la fin du livre boucle la boucle et qu'on va tout recommencer quand tout est fini. Alors, moi, je trouve fascinant cet éloge de la persévérance.
Éloge de la persévérance chez Vian, qui prend également la forme d'entreprises absurdes, proprement absurdes, comme par exemple la construction d'une voie ferrée, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans le désert d'Exopotamie, qui paradoxalement est au centre de l'intrigue de l'automne à Pékin, un chemin de fer qui rassemble les hommes et qui suscite en même temps les conflits entre eux.
Et non seulement construction inutile, comme vous le dites fort justement, mais chemin de fer qui va traverser la seule construction qui se trouve dans le désert, qui est l'hôtel où travaille le conseil d'administration. Donc là, on est vraiment dans l'absurde le plus total.
Oui, c'est-à-dire c'est l'administration d'un désert, en l'occurrence. Hein, c'est,
exactement.
Or, effectivement, on ne parle pas dans le désert, ou plus exactement, Vian prend cette fois-ci le contre-pied de Jean-Saul Partre en expliquant que finalement, tout le monde parle dans le désert. Néanmoins, dans les œuvres de Vian, alors j'allais dire dans les passages plus humides des œuvres de Vian, celles où la végétation prolifère, on a tout de suite le sentiment que les individus communiquent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme chez Kafka par exemple, de sentiment de clôture entre les individus chez Vian. Tout le monde se parle. Marc Lapran.
Oui, et tout le monde est en parfaite harmonie dans ce monde qui pour nous est très étrange et très inquiétant.
Finalement, c'est le lecteur qui en questionne l'étrangeté, alors qu'elle est naturellement vécue par les protagonistes.
Absolument, vous avez tout à fait raison, et c'est peut-être ça qui rend ces romans encore plus surprenants, puisque rien n'a l'air de surprendre les personnages, c'est nous les lecteurs qui sommes surpris.
Effectivement, alors c'est le cas par exemple de Amadis Dudu, bureaucrate, ancien de Sciences Po, aux prises avec un monde hostile, sinon pervers, le triangle amoureux aussi, hein. Anne, Rochelle et Angèle dans l'automne à Pékin, un criminel devenu ermite, un curé clown aussi, un directeur homosexuel. Tous les personnages de Vian, il n'existe chez Vian aucun personnage ordinaire, Marc Lapran. J'en ai pas trouvé
un seul. Vous avez raison, et j'ajouterais que rien n'est gratuit non plus. Et ça, c'est très curieux parce que...
En quel sens, me dites-vous ?
On a souvent dit de Vian que c'était un centralien qui écrivait des romans pour amuser ses copains. Il y a un esprit potache, collégien. C'est très superficiel comme remarque. Parce que quand on décortique un peu le langage chez Vian, ses jeux de langage, les noms des personnages, il y a une onomastique facétieuse qui mérite une étude à elle-même, en elle seule, je veux dire... Il y a beaucoup plus que de la gratuité. Rien n'est gratuit chez Vian.
Je pense à un Américain rasé, aux épais sourcils noirs qui étouffent de chaleur, au 20e étage d'un immeuble de New York. Au-dessus de New York, le ciel brûle, le bleu du ciel s'est enflammé, d'énormes flammes jaunes viennent lécher les toits, les gamins de Brooklyn vont se mettre en caleçon de bain sous des lances d'arrosage. La chambre obscure au 20e étage cuit à gros feu. L'Américain aux sourcils noirs soupire, halète, et la sueur roule sur ses joues. Il est assis en bras de chemise devant son piano, il a un goût de fumée dans la bouche et vaguement un fantôme d'air dans la tête. Some of these days. Ça, c'est pas du Vian, c'est du Jean-Saul Partre.
I feel so lonely.
Un grand, immense merci, Marc Lapprand, d'être avec nous, d'avoir été avec nous dans cette émission sur Boris Vian depuis Victoria au Canada, où vous enseignez, je rappelle le titre de votre livre, hein, V comme Vian, aux presses universitaires de Laval. Je signale également que vous avez coordonné, annoté et présenté l'édition des œuvres complètes en 15 volumes de Vian, disponibles chez Fayard. Demain, suite des nouveaux chemins de la connaissance, je recevrai Marie-Claude Hubert, qui enseigne la littérature à l'université d'Aix-Marseille et qui viendra vous parler, qui est venue hier vous parler et qui, vous l'entendrez demain, donc je vais y arriver, de la cantatrice chauve. Je signale par ailleurs, évidemment, vous le savez tous, nous avons appris ce matin la disparition de Roger Planchon. France Culture lui rend hommage demain dans Tout arrive, en parlant d'abord de cet homme de théâtre avec des personnes qui l'ont bien connu. Et en deuxième partie, rediffusion d'extraits d'un bon plaisir que Monette Berthommier lui avait consacré en 1994. Enfin, lundi prochain 18 mai, dans son émission Comme au théâtre à 21h, Joël Gaillot rediffusera le dernier entretien qu'elle avait fait avec lui récemment et qui avait été diffusé le 6 avril dernier. Un grand merci aussi au service technique de la Radio canadienne CBC de Victoria qui nous ont permis de vous avoir de façon acrobatique en duplex depuis Victoria et dans un silence vianesque à la technique aujourd'hui à Paris. Je remercie Jean-Frédéric, à la réalisation Christine Diger, Adèle Van Rett pour un travail énorme sur cette émission, Geneviève Méric, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa et je donne à 17h50 la parole à Albert Jacquard.
Dans l'explication darwinienne de l'évolution des êtres vivants, le sujet des plus vives discussions est la difficulté de préciser l'origine des différences sur lesquelles opère la sélection. Car pour que la sélection naturelle puisse jouer, il faut qu'il y ait des réalités différentes d'un individu à l'autre, d'une espèce à l'autre. Avec le processus décrit par la génétique, cette source inépuisable de novation est fournie par le jeu des combinaisons. Des combinaisons à la fois dans les organismes des deux géniteurs et dans l'association des gamètes, ovules et spermatozoïdes, fournis par eux deux. Sans chercher à réécrire l'histoire de la science en ce domaine, on peut penser que Darwin aurait défini la sélection naturelle d'une façon bien différente de celle qu'il a proposée s'il avait pu tenir compte des découvertes de la génétique. Hélas, ces découvertes n'ont été réalisées que beaucoup trop tard. La ressemblance qu'il évoque entre les générations n'aurait pas concerné des individus, mais uniquement des populations. C'est pourquoi le recours à des outils mathématiques était nécessaire, mais ils n'ont été développés qu'après la découverte de Mendel. Il n'a pas pu en tenir compte. Il ne s'agit pas là d'une querelle de préséance entre scientifiques, mais de la compréhension de ce qui évolue. Insistons sur deux remarques. Certes, une ressemblance peut être constatée entre, disons, chacun de mes fils et moi, mais cela ne permet pas de nous référer à une évolution entre nos deux générations. Cette évolution ne peut être définie qu'en mesurant des corrélations pour une caractéristique bien définie et précisément mesurable entre l'ensemble des hommes de ma génération et l'ensemble des camarades de mes fils. Les cas individuels sont trop dispersés pour apporter une information valable. Seules les moyennes ont une signification, et cette signification n'apparaît que grâce à l'accumulation des mesures. Seconde remarque, l'évolution résulte uniquement des rapports actuels présents entre le milieu et les êtres vivants qui y trouvent abri. Il est donc fautif d'imaginer que la nature peut avoir un objectif lointain vers lequel elle tendrait. Car pour la nature, l'avenir n'existe pas. Il faut donc pourchasser des explications sur l'évolution qui présentent des modifications actuelles comme ayant comme finalité un état qui n'est pas encore manifesté.
À retrouver sur Radio France.
Demain dans le Move, dès 6h.
La matinale.
Benoît Bouscarel et Antoine Gignot vous donneront rendez-vous pour 3 heures de musique et de news au petit déjeuner.
Les flash infos, le tête à net, le tour du rock, la revue de web.
Plus d'infos, lemove.com.
Demain sur France Info à 7h25.
Le journal du Festival de Cannes.
Florence Leroy présentera les dernières nouvelles, les films en compétition, les acteurs et les réalisateurs sur la croisette.
En savoir plus,
France-info.com.
Et demain sur France Bleu à 12h30,
France Bleu Midi.
William Régeau, infirmier dans une maison de retraite, sera l'invité d'Élodie Suigo et Denis Farou pour parler de son expérience qu'il raconte dans son livre
« Maman, est-ce que ta chambre te plaît ? Survivre en maison de retraite ».
Plus d'infos, francebleu.com.
Radio France.
Radio France. On ne se quitte plus. Hommage à l'homme de théâtre Roger Planchon, décédé ce mardi à l'âge de 77 ans. France Culture saluera cette grande figure qui a dirigé pendant plus de 40 ans le TNP de Villeurbanne et revisité avec tant de pertinence les pièces classiques qu'il a définitivement dépoussiérées. Hommage, demain jeudi dans Tout arrive à midi et dans Le Rendez-vous à 19h15 et lundi 18 dans Comme au théâtre à 20h. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com.
À 17h54 sur France Culture, on retrouve Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Raphaël.
2, 1, 0.
Et bonsoir à tous. 18h20 l'émission, 2 heures articulées sur l'actualité en direct.